France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Pour son troisième long métrage, la réalisatrice Charlène Favier s'est penchée sur l'histoire tragique d'Oksana Shchetko, fémène de la première heure, icône sacrificielle de la cause des femmes, artiste réfugiée en France. Elle disparaît en 2018 à l'âge de 31 ans. On en parle avec la cinéaste à partir de 13h. Mais d'abord, dans cette première partie, la littérature est à l'honneur. Avec nos critiques, on va revenir sur le parcours et la plume de Mario Vargas Llosa qui nous a quittés dimanche. Et puis on parlera de deux livres à lire en ce printemps, Suspense, du roman à l'écran qui rassemble 7 récits de Boileau Narcéjac et À trois, on saute de Charlotte Bourlard. Vous écoutez les Midis de Culture, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à nos critiques, François Angelier, producteur de l'émission Mauvais Genre sur France
bonjour,
Culture.
Bonjour.
Élise Lépine, journaliste littéraire au Point.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
J'espère bien continuer à écrire jusqu'à la fin, oui. C'est ma manière de vivre. Hein. C'est ce que Flaubert disait de la vocation littéraire. La littérature, c'est une manière de vivre. Ma manière de vivre est la littérature. Et j'espère bien écrire jusqu'au dernier jour. Oui.
Mario Vargas Llosa, qui nous a donc quitté dimanche, il est revenu mourir au Pérou, son pays d'origine, à l'âge de 89 ans. Prix Nobel de littérature en 2010, il disait que sa plus belle récompense restait tout de même son entrée dans la Pléiade. Il avait également été élu à l'Académie française en 2021. Dans les midis, on a donc voulu lui rendre un dernier hommage. Bonjour Pierre Ducrozet.
Bonjour Marie Laborie.
Bonjour et bienvenue dans les Midis de Culture. Vous avez longtemps vécu en Espagne, vous connaissez bien la littérature hispano-américaine, latino-américaine, pardon. Vous êtes romancier, vous êtes journaliste, comme Vargas Llosa d'ailleurs. Il est décrit aujourd'hui comme le dernier grand auteur mondial latino-américain. Quelle place occupe l'œuvre de Vargas Llosa pour vous ?
Elle est très importante. Je l'ai découverte quand j'arrivais à Barcelone, justement, et que je lisais en espagnol, ce qui était mes maîtres, Borges, Cortázar, et je découvrais un livre qui s'appelait Los Cachorros, les chiots, qui est un des premiers et qui est assez incroyable. Il réinvente la grammaire, la syntaxe espagnole en tordant la phrase. C'est l'histoire d'une bande d'adolescents dans le Pérou des années 50. Un jeune qui se fait mort par un chien, qui se fait émasculer et qui et il y a vraiment une sorte de violence de la phrase et de vivacité qui m'avait beaucoup impressionné.
Parce que Vargas Llosa, évidemment, c'est un styliste. Enfin, c'était un styliste. C'était vraiment une narration comme ça explosée qui permettait une multiplicité des points de vue dans ce domaine. Vous vous sentez dans une forme de filiation peut-être?
Oui, et c'est ça, c'est son grand apport et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté entre lui, Bolaño, Cortázar, c'est des maîtres c'est des virtuoses de la narration. Il y a toujours différents fils qui se rejoignent dans ces romans, qui se croisent. Il y a tous les registres littéraires qui se croisent, l'oralité, le récit, les personnages. On va d'un lieu à l'autre. Ça, c'est très fluide, c'est très bien construit, c'est très éclaté aussi à l'image de la société qu'il décrit. Mmh. Et voilà, il y a vraiment l'apport des grands modernistes que sont Faulkner, que sont Woolf et aussi Hugo qui était un grand maître pour lui. Et donc voilà, il maîtrise un peu tous les arts et il les réinvente, tous les arts de la narration, il les réinvente au XXe siècle et ce qui en fait un des grands modernistes du siècle.
Comment vous le situeriez justement au milieu de tous les artistes, les auteurs latino-américains que vous avez cités, comment vous le situeriez dans ce paysage-là?
Il est chacun, c'est assez beau dans le boom latino-américain, c'est que chacun a une sorte de place et lui c'est peut-être un des plus érudits, ils le sont tous à vrai dire. Mmh. Mais ce qu'il fait c'est qu'il prend, voilà, j'ai cité Faulkner parce que c'est essentiel.
Ouais.
Il prend la polyphonie de Faulkner, l'écriture de la violence, l'écriture très physique, c'est vraiment une écriture du corps. Moi je parle surtout des années 60-70 qui sont ces grandes années, ces sommets au niveau de la forme. Et donc là ce qu'il fait c'est donc il prend ça, il prend aussi le grand voilà, il est très marqué par Flaubert et par Hugo.
Ouais.
Et donc il y a cette espèce de d'élan narratif comme ça qui charrie, qui un grand, il a un grand flow en fait, il est porté par une sorte de doué de grands flots narratifs. Et donc, il prend tout ça, mais c'est vraiment un réaliste. C'est-à-dire qu'à la différence de García Márquez, qui, on le sait, mêle sans cesse récits, rêves, on est toujours à la lisière, on est dans un troisième monde. Là, on est vraiment dans le réel du Pérou, principalement. Il décrit la violence sociale, il décrit la pauvreté, il décrit la dictature, et avec des mots très crus, avec une sorte de... Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est sa langue. Il réinvente avec tous les autres, c'est ça qui est très important. Chacun réinvente la langue espagnole et évidemment latino-américaine. Chacun dans son pays, en particulier, il y a l'Argentine de Cortázar, il y a le Mexique de Carlos Fuentes, il y a la Colombie de García Márquez, et chacun va changer non seulement la littérature de son pays, mais la littérature mondiale. Donc c'est un truc qui se passe dans ces années-là qui est sidérant, qui est encore là.
On disait qu'il était revenu là au Pérou pour vivre ses derniers instants quelque part dans son pays natal. Aujourd'hui, comment Vargas Llosa est vu par ses pairs quelque part?
Alors il est le un des grands maîtres, évidemment, la dernière grande figure de ce boom dont je parlais. Il a même perduré au-delà de Bolaño, qui était pourtant un des héritiers du boom. Et il y a aussi la figure intellectuelle politique qui est la plus controversée. Il a une trajectoire, disons, qui part du castrisme et qui arrive à la droite extrême. Oui. Et donc il y a cette figure-là. Il y a l'intellectuel, le journaliste aussi. Donc il était dans tous ces aspects-là, la grande figure intellectuelle du Pérou et au-delà. Donc il y a tout ça qui en fait une sorte de stature un peu imposante, un peu parmi aussi les autres du boom latino-américain. C'est peut-être le moins aimable, c'est le moins directement celui qu'on a envie de prendre dans ses bras, mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un intellectuel de la chose. Le journalisme, c'est une œuvre importante qui, moi, me touche moins, et la politique encore beaucoup moins. Mais je garde surtout l'écrivain, parce que dans ces années-là, il fait quelque chose d'assez dingue qu'il faut pas oublier.
En tout cas, merci beaucoup, Pierre Ducrozet, d'avoir répondu à nos questions et de vous être rendu disponible aujourd'hui pour parler de Mario Vargas Llosa. À bientôt.
Merci beaucoup.
À bientôt. Et je vous propose d'écouter maintenant Mario Vargas Llosa. Il était au micro de Laure Adler en 2017.
Je crois que la littérature est la vie, n'est-ce pas? Et c'est la littérature qui vous fait comprendre ce que vous vivez sans prendre des distances, sans les savoir. Et la littérature vous enrichit énormément la compréhension de la vie dans toutes ses nuances, dans toutes ses variations. Je crois que c'est un des effets merveilleux qui ont les grands livres, les grandes œuvres littéraires. Vous sortez de ces œuvres et vous avez l'impression de connaître beaucoup mieux le monde dans lequel vous vivez. Hein? C'est ce qui m'est arrivé toujours que je lis un grand livre, un chef-d'œuvre. Hein? Oui, je sors avec une vision beaucoup plus riche de ce qui m'entoure, n'est-ce pas, de ce qui est l'expérience quotidienne, et aussi en même temps avec un esprit beaucoup plus critique de ce que j'avais avant de lire.
L'auteur Mario Vargas Llosa en 2017 sur France Inter, François Angeli. On a cité Les Chiots tout à l'heure avec Pierre Ducrozet. Quel serait le roman que vous retiendrez?
Il y en a un roman qui parle d'un moment de radio, c'est Tante Julia et le Scribouillard. Sinon, je retiendrai La Fête au Bouc, bien évidemment, La Guerre de la fin du monde. Pour rebondir sur ce que disait Pierre Ducrozet, c'est vrai que moi je l'ai interviewé une fois, on n'a pas envie de lui taper sur le ventre. Hein. C'était un grand d'Espagne, un grand du Pérou, de la littérature, donc personnage assez assez altier, on le regardait comme ça. Bon. Mais cela dit, c'est vrai c'est des vrais écrivains politiques. Au sens, ce sont que tous les écrivains qui ont été cités ont trouvé un moyen d'effectuer une critique politique de l'histoire et de leur société avec des moyens qui sont pas, je dirais, ceux du réalisme bas de gamme. C'est le côté grotesque, carnavalesque, une monstrueux presse. Et c'est vrai que ça m'étonne pas qu'il s'intéresse à Hugo, qu'il aime Hugo, parce qu'il y a aussi chez Hugo cette capacité de générer des personnages monstrueux, absolument fabuleux, des passages de fables, et qu'on retrouve aussi chez lui.
Élise Lépine, il vous a marqué. C'est des lectures qu'on peut avoir assez jeunes. Moi, j'ai souvenir qu'on lisait Mario Vargas Llosa. C'était notre première entrée, peut-être, dans la littérature latino-américaine.
Absolument. Moi, je me souviens d'avoir lu Tour et détour de la vilaine fille. J'étais assez jeune, en effet, et j'avais adoré ce personnage de femme cruelle, impitoyable, et somme toute assez incroyable. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement, il y a ce côté grand écrivain international, cosmopolite, grande figure du commandeur. Voilà. Mais en même temps, je trouve que dans sa littérature, est quelque chose d'assez punk, qui n'hésite pas à casser les codes, et même dans sa vie aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui tordait un peu les choses. Et puis, oui, voilà, je me rappelle aussi de Tante Julia et le Scribouillard que j'avais trouvé très joyeux. Je me souviens que c'était assez érotique, que c'était lumineux, que c'est drôle finalement. Donc, j'aime cette voix. Assez punk.
On va retenir cette voie-là, et comme disait Pierre Ducrozet, bon, la partie politique sur la fin de sa vie était un peu plus compliquée avec un soutien à l'extrême droite très très net, notamment au Brésil avec Bolsonaro. Merci à tous les deux pour cette petite incartade sur Mario Vargas Llosa, qui, je le rappelle, nous a quittés dimanche.
12h, 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Borges.
On citait Borges, François Angelier, c'est beau. On passe maintenant à nos deux nouveautés littéraires du jour et on commence avec ce livre, Boileau, Narcéjac, suspense du roman à l'écran, qui rassemble 7 romans du duo d'auteurs, tous adaptés à l'écran, avec parfois de véritables chefs-d'œuvre à la clé, comme Sueur froide d'Hitchcock ou Les Diaboliques de Clouzot. C'est dans la collection Quarto chez Gallimard. Qu'en avez-vous pensé, François Angelier ?
Ah, que du bien. Je remercie Aude Sirier, la patronne de Quarto, d'avoir, pour les 30 ans de sa collection, commandé et généré ce volume qui est tout à fait formidable. Puisque, bon, Boileau, Narcéjac, c'est 70 romans à peu près, parus pendant plusieurs décennies chez De Noël, un tandem, comme il y a Erckmann Chatrian, Ellery Queen, avec aussi ces deux auteurs policiers américains, donc ont été véritablement très familiers, aussi familiers que Simenon pour les lecteurs français. Et puis bon, le temps a passé, d'autres auteurs sont venus, le néo-polar s'est imposé, donc Boileau, Narcéjac, c'était un petit peu, je dirais, le récit d'angoisse policière de papa, ouais. Ou de grand-papa. Et puis est arrivé Francis Lacassin avec l'énergie et la folie de Guy Scheller. On a eu les 5 tomes. Normalement, il y en avait 6 de prévus en bouquin, les œuvres complètes de Boileau, Narcéjac, où on pouvait redécouvrir chronologiquement avec la bibliographie, la présentation, les entretiens, les articles, toute l'œuvre de ces personnages. Et aujourd'hui, eh bien, Quarto nous permet de renouer enfin avec ce tandem absolument extraordinaire, qui est quelque part entre Edgar Poe, Simenon. C'est des gens qui marient à la fois un génie du roman d'angoisse psychologique et de peinture sociale. C'est un côté Dostoïevski par moments, Simenon par d'autres, ce qui est déjà pas si mal. Et donc là, on a un axe de recherche, parce que c'est colossal comme œuvre, qui est les romans à l'écran, c'est-à-dire 7 textes qui ont tous donné lieu à des productions cinématographiques ou télévisuelles, avec évidemment d'abord et avant tout les deux monuments définitifs, Les Diaboliques de Clouzot, le roman 7, Celle qui n'était plus, et Sueur froide, Vertigo, d'Entre les morts, adapté par Hitchcock. Alors on voit d'ailleurs comment Hollywood et comment des génies comme Clouzot arrivaient à tirer parti, non pas adapté, mais tirer parti de la matière première que leur offrait Boileau, Narcéjac.
Et donc, en tirer parti, c'est-à-dire quelquefois même en faire mieux, en faire plus.
C'est-à-dire qu'il récupérait l'essentiel de ses romans, c'est-à-dire une sorte de matière noire, de climat général moite, angoissant, pluvieux, poisseux, un mélange à la fois de romans du destin et de romans, une espèce de poisse comme ça, de pessimisme radical, très très augustinien d'une certaine façon. L'homme est pécheur et vit dans son péché, et d'une certaine façon, ce que Clouzot a fait, il a pris très peu de choses du roman. Mais il a pris l'ADN général et il en a fait en le transposant tout à fait ailleurs et avec beaucoup de personnages tout à fait différents du monde de l'enseignement, de l'école privée ou tout à fait autre chose.
Élise Lépine, en lisant ces sept romans, le cinéma est déjà là, on le sent.
En tout cas, c'est oui, on le sent. On est dans une ambiance. Ce sont vraiment des romans d'atmosphère. Et moi, ça m'a comme le Vargas Llosa, ça m'a ramené à des souvenirs de jeunesse, mais encore plus jeune, parce que là, j'étais j'étais à peine adolescente et je prenais des polars dans la bibliothèque de mon grand-père. Et j'avais l'habitude de sortir des SAS ou des romans policiers assez classiques, de bonne facture solide. Et j'avais pris celle qui n'était plus. Et je me rappelle avoir eu peur. C'est-à-dire que j'avais vraiment ce frisson-là, ces petits cheveux qui se dressent dans la nuque, parce que c'est cet homme qui tue sa femme, etc. Et puis qui, en fait, a l'impression qu'elle revient, qu'elle vient. Puis il est chez lui, puis il sent l'odeur du ragoût, elle lui laisse des petits mots, etc. Et ça m'avait assez glacé le sang. Et j'avais complètement oublié que c'était Boileau-Narcejacques. J'avais pas retenu. Et j'avais cette histoire, je pense, dans un coin de ma tête. Et en relisant ces textes, je me suis dit, mais en fait, c'était ça. Et c'était ces auteurs-là que j'avais complètement... Et je me suis souvenue de effectivement cette ambiance, cette atmosphère. On ne peut que comprendre que des cinéastes aient eu envie, et des cinéastes comme Clouzot ou Hitchcock, aient eu envie d'en extraire comme ça cette noirceur dont parlait François Angelet. Je suis tout à fait d'accord. On sent. Et puis, il y a la profondeur psychologique aussi. Il y a la profondeur sentimentale, parce que c'est toujours un homme qui est amoureux, qui pense qu'il ne l'est plus, qu'il est amoureux d'une autre, mais qui finalement se rend compte qu'il était amoureux, mais que c'est trop tard que la mort a frappé, mais que peut-être qu'il y a un double ou qu'il y a un ectoplasme de sa femme. Enfin, c'est très mystérieux.
C'est du fantastique, quasiment.
C'est quasiment du fantastique. On est dans un brouillage des frontières que moi, j'aime beaucoup et que je trouve assez fascinant. Mm-hmm.
Donc, alors, on a cité les deux monuments, François Angelet, évidemment, Sueur froide, enfin, Vertigo et Elle est diabolique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme adaptation qu'on connaît peut-être un peu moins,
d'ailleurs. Les Louvres, les magiciennes, mais là, je vais déplacer la question.
Ah, bah, allez-y, déplacez ma question.
Non, il y a une filmographie réalisée par, faut saluer d'ailleurs le travail d'érudition et de cadrage historique et d'approche critique de Dominique Jeannereau, qui a fait ce volume et qui donne une filmographie intégrale. Donc, on a au départ, quand on commence avec Clouzot, Hitchcock, après, c'est difficile de monter en gamme. Donc, après, je ne veux pas dire que ça descend, mais c'est passé une certaine décennie glorieuse comme ça. C'est l'univers de la essentiellement télévisuel. Mais bon, il y a des choses comme eux-mêmes ont fait des scénarios, le Symphonie pour un massacre, des films comme ça. Mais ce que je veux dire, si on veut essayer de trouver dans un film la véritable atmosphère Boileau-Narcejacques et une intrigue qui soit vraiment celle-là, c'est-à-dire une espèce de passion amoureuse qui dégénère dans la folie et dans une espèce de délire visionnaire, il faut voir le film de Franju, Les yeux sans visage, où Pierre Brasseur joue un grand ponte de la chirurgie qui tente de redonner un visage à sa fille qui l'a perdue par sa faute dans un accident de voiture et qui, pour ce fait, enlève... défigure en prélevant, en écorchant le visage de pauvre jeune fille qu'une comparse récupère dans les files d'attente de cinéma. Et ce film, qui est un film à la fois poétique, gothique, horrifique et policier, condense dans son génie propre la totalité de ce qu'est l'univers de Boileau-Narcejacques. Donc il y a beaucoup de choses, mais je dirais aux auditeurs, allez voir le Franju. C'est Jean Redon, ça paru dans la collection Angoisse-le-Zoir, mais c'est plus Boileau-Narcejacques ont quand même fait le scénario, mais ils se sont approprié le roman pour en faire carrément leur œuvre d'une certaine façon.
Et je précise que Dominique Jeannereau était votre invité.
Oui, il était notre invité. Et il a eu largement l'occasion de s'exprimer sur la question.
Et donc, on peut le réécouter en podcast, évidemment. Suspense du sur roman à l'écran de Boileau-Narcejacques, collection Quarto aux éditions Gallimard. À trois, on saute, c'est la proposition de Charlotte Bourlard pour son deuxième roman paru au Diable Vauvert. Sur un rythme effréné, on y suit Marie et Rachel, deux jeunes femmes qui vivent en marge de la société qui les entoure, d'arnaques, de vols, de sales combines. Évidemment, ce train d'enfer va dérailler et avoir des conséquences pour les deux héroïnes. J'ai pitché très 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 rapidement, donc si vous pouvez en rajouter l'un et l'autre, ne vous dérangez pas, ne vous gênez pas. Et on commence par vous, Élise Lépine.
Moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et qui m'a plongée dans un malaise extrême. C'est-à-dire que dès le début, alors j'ai été regarder un peu ce qui avait été dit sur Internet et j'ai vu qu'il y avait pas mal de lecteurs et lectrices qui avaient trouvé que c'était joyeux, que c'était plein de vie, que c'était enlevé. Et c'est vrai, c'est parce que c'est rapide, c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses, c'est parce que la voix de la narratrice est pète le feu, en fait. Ce sont deux femmes, deux jeunes femmes qui vivent sur un bateau. On est en Belgique et elles sont complètement marginales. C'est Rachel et Marie, mais elles se sont baptisées comme ça, ce sont pas leurs vrais prénoms. Et elles commettent des larcins, elles commettent des arnaques. Elles sympathisent avec tout le monde. Et ce sont des personnes assez extravagantes qui embarquent comme ça les gens, qui s'embarquent aussi elles-mêmes dans des idées, qui vont faire du shopping en ne payant rien, mais qui prennent à la fois des truelles, des ciseaux de jardin, des vernis à ongles. Alors il y a un côté pop et rigolo, mais très tôt dans le livre, on a des petites phrases qui nous amènent la violence de manière assez atroce. Par exemple, Marie, qui est celle qui veille sur Rachel. Rachel, on sent qu'elle est plus fragile, qu'elle a un peu du mal à s'adapter. Elle est un peu à vif dans ce monde. Et Marie, elle tient les rênes de l'attelage. Et elle dit, quand elle était bébé, sa mère l'a trempée dans l'eau bouillante. Et ça, c'est une petite phrase. On se dit, mais ça percute un peu le cerveau. On se dit, mais... Puis elle passe à autre chose. Et puis c'est rigolo. Et puis elles se mettent des robes à paillettes. Et puis elles font l'amour assez régulièrement avec des gens qu'elles ramassent un peu comme ça. Enfin, c'est gay tout ça. Mais elles vont régulièrement rendre visite à une femme qui s'appelle Solange, dont on comprend que c'était la mère d'accueil de Marie quand elle était petite. Et elle vit avec des tonnes de chats dans un endroit absolument crasseux, et les deux filles la nourrissent avec une friteuse, elles font frire n'importe quoi et lui mettent dans le bec. C'est une énorme femme qui ne bouge plus de son lit, qui est couverte de plaies, qui finalement se fait attaquer par ses chats. Enfin, c'est extrêmement angoissant. Il y a les gamins du voisinage qui viennent les aider, elle leur donne des croquettes. Enfin, il y a quelque chose de terrible, et ces deux filles sont contaminées par la cruauté de leur propre histoire. Donc on comprend que ces deux enfants saccagés ont donné des êtres complètement saccagés également, qui vont aussi saccager les vies des personnes qu'elles rencontrent, avec une forme de légèreté qui, moi, m'a glacé le sang finalement. Et ça m'a assez brisé le cœur aussi. C'est-à-dire que de voir à quel point, c'est ce que raconte l'autrice, mais et elle le fait avec une grande intelligence, avec une très belle plume, mais elle montre que voilà, quand on brise, quand on casse aux racines d'une enfance, eh bien ça ne peut donner que des trains qui déraillent. Mmh. Et c'est finalement, sous couvert de rire et de sourire, on est dans quelque chose d'extrêmement triste.
François Angelier, triste aussi
Fondamentalement désespéré. Je suis tout à fait d'accord avec Élise. Alors, il faut d'abord effectivement dire que la littérature féminine belge actuelle est d'une puissance et d'une santé extraordinaire, parce que quand on a Charlotte Bourlard, Caroline de Mulder, Rachel Scholz et autres, on se dit que bon, là, les plumes belges, les écrivaines belges sont tout à fait extraordinaires. Donc Charlotte Bourlard, on l'avait découvert par un livre chez Inculte, je regarde pour ne pas dire de bêtises, la date de parution de L'apparence du vivant.
Qui avait eu le prix Sade d'ailleurs.
Absolument. Très bon prix. En 2022. Et qui racontait l'histoire d'une jeune fille qui était amenée à pénétrer dans l'intimité très, très étrange d'un couple de taxidermistes. Et puis les choses évoluaient vers une monstruosité d'excellente aloi. Au point même que donc, on était aux limites du fantastique et du fait divers. Voilà. Et là, avec À trois, on saute, qui est la dernière phrase du roman. On saura pourquoi quand on lit le roman, mais on doit le lire parce qu'effectivement, Charlotte Bourlard confirme tout à fait les bonnes impressions qu'on a vues avec ce premier texte. Comme le disait Élise, c'est un côté bébé secoué. C'est deux jeunes filles qui ont été très socialement très secouées. Viol, placement hasardeux par les autorités sanitaires, donc Rachel et Marie, et qui vivent, je dirais, dans un éternel présent qui est à la fois ludique et totalement marginal, en permanence une espèce de subversif. C'est-à-dire qu'elles volent en permanence, elles se servent dans la vie, voilà. Ce sont deux jeunes filles qui se servent. Alors elles vont dans un magasin, les choses leur plaisent, elles se servent. La question du paiement est tout à fait accessoire. La question du libre arbitre des personnes qu'elles rencontrent est totalement inutile. Donc elles se servent dans les magasins, elles se servent dans les trains avec les passagers, elles se servent dans la rue. Elle c'est une espèce de vie improvisée et dans la cruauté, mais joviale, une espèce de pureté, d'innocence sauvage, qui fait qu'elles sont joliment criminelles, mais toujours décontractées dans une sorte de festivité permanente. Mmh. Et le roman, l'écriture, ressemble à ça. C'est-à-dire que ce sont des phrases courtes qui se percutent comme des... Alors, je ne vais pas dire des billes de flippers, ce qui accuserait mon grand âge. mais comme une espèce de petites unités comme ça qui crépitent, d'un texte qui crépite, plutôt le pop-corn comme ça, qui en permanence. Et l'affaire est racontée à la première personne par Marie, puisque Rachel a une espèce de est un petit peu ailleurs, comme on dit. Et donc ça nous mène avec des scènes extraordinaires de séduction, assassinat, notamment à un moment elles vont chez un monsieur qui s'appelle Alain, qui collectionne à peu près tout et n'importe quoi, et bon, et qui finit par y laisser sa peau. Il y a tout un, et il y a le personnage de Solange. Alors là on est, c'est sud-américain, là c'est vraiment on pourrait être dans un roman sud-américain, c'est-à-dire que c'est une espèce de d'ogresse, cette Solange, qui vit vautrée sur un lit entourée d'une mère de chats, de tonnes de chats, comme disait Élise, qu'on nourrit à coups de croquettes tous les jours. Il faut 40 kilos de croquettes qu'on sème justement dans le troupeau de chats. Non, c'est totalement... Et puis il y a la friteuse, qui sert à peu près à tout, sauf à frire ce qu'on doit y faire frire. C'est un roman, effectivement, monstrueux, jovial, carnavalesque, païen, totalement roboratif, comme on
et
dit.
Et tragique. Oui, mais c'est vrai quand on entend au tout début, on pourrait imaginer... J'ai lu, moi, effectivement, comme vous, dans la presse, que c'était presque un road movie féministe. Enfin voilà, il y avait un côté comme ça. C'est le cas.
Il y a côté Thelma et Louise.
Voilà, c'est le cas. Ouais. Exactement. Mais en même temps, c'est le festival de l'impulsion, quoi. C'est-à-dire, on y va. Il y a plus de surmoi. Tout est possible. Toutes les étincelles claquent, quoi. Et donc forcément, à un moment donné, tout prend feu. Mais c'est et elle a une capacité. Moi, j'étais admirative de la façon dont elle termine ses paragraphes. Ou ses chapitres, elle a un sens du dernier mot ou de la dernière phrase, de la phrase qui claque, qui est assez en miroir avec les actions de ces deux personnages. Mmh. C'est-à-dire, on pose quelque chose, on y va, on lâche. Et elle est percutante. Et en même temps, bah, ça nous entraîne très très loin, quoi.
Ça nous entraîne à peu près n'importe où et où on veut, où on ne sait pas où on va d'ailleurs.
Juste pour finir, vous parliez de la vivacité de l'écriture au féminin belge, dans lequel s'inscrit Charlotte Bourlard, que vous définiriez comment, François ?
Ben, on parlait du punk, voilà, c'est un adjectif qui revient souvent. On parle souvent de punk, mais là, je crois qu'on est véritablement avec au moins les trois romancières, trois écrivaines donc que j'ai citées dans une espèce d'écriture subversive, disruptrice, lyrique, punk pour le dire le mot.
Ah ouais, c'est de la poésie mal élevée, quoi.
Profondément mal élevée et profondément littéraire, donc.
À trois, on saute de Charlotte Bourlard, paru au Diable Vauvert. Et évidemment, toutes les références, les infos sur ses livres et ses autrices et auteurs sont sur la page des Midi de Culture. François Onjolier, Élise Lépine, merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture.